Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Difficile à la veille de cette semaine sainte de ne pas avoir en tête tous les récents drames qui ont secoué l'Église et laissent craindre que nombre de personnes vivent de manière indifférente cette semaine qui est la vie des chrétiens. Quoi de mieux pour sortir de cette brume épaisse que la lumière de grands témoins des saints, comme l'on dit dans l'Église catholique, en d'autres termes d'hommes et de femmes qui ont pris Dieu au sérieux. L'émission cinéma d'aujourd'hui en présente deux. Jean Vanier, toujours vivant, fondateur de l'Arche Communauté de Vie avec des personnes handicapées, et Gandhi, héros de la non-violence, libérateur pacifique du peuple indien. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau nos deux messieurs cinéma. Très heureux de vous retrouver. Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Louis-Marie Salaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse le mercredi à 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
En introduction, en chapeau, on va dire, de chacune des émissions, on essaie de trouver un fil conducteur. Vous aviez peut-être quelque chose à rajouter qui pourra introduire le troisième film. Je vais déjà les citer. Le premier, c'est donc Le Sacrement de la Tendresse. C'est un film, ou plutôt un documentaire adapté au cinéma de Frédéric Bedos, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Le deuxième, notre chef-d'œuvre humaniste du mois, c'est donc Gandhi. De Richard Attenborough, c'est comme ça qu'on dit ?
Exactement.
Attenborough, voilà, film sorti en 1900, Louis-Marie, aidez-moi. Enfin bon, film qui est sorti il y a quelques temps, 82 pardon, chef-d'œuvre humaniste de ce mois-ci. Et le dernier film, c'est donc Tu ne tueras point de Keslowski.
Et qui est sorti, lui, en 88.
Qui est sorti, lui, en 88. Alors vous aviez pour le dernier, Paul, peut-être une manière de raccrocher le dernier à mon introduction. Qu'est-ce que vous ajouteriez à cette introduction ?
Alors, je rajouterais qu'avec ces trois films-là, on a trois approches différentes d'une façon de témoigner avec le cinéma. Avec Gandhi, on crée une mise en scène sur une histoire réelle, vécue, mais le film la traite à sa façon. Avec Jean Vanier, on donne la parole au témoin. Il n'y a quasiment que la parole du témoin. Et quelques images de type reportage. Et avec le film de Keslowski, Tu ne tueras point, à partir d'un fait de vie ordinaire, même s'il est dramatique ici, le cinéaste assume son regard et sa réflexion, et c'est lui, d'une certaine façon, qui devient le témoin. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a différentes façons de témoigner au cinéma.
On va commencer donc avec Le Sacrement de la Tendresse, film donc sur Jean Vanier, très connu de certains, c'est ce que j'ai dit récemment, parce qu'on avait fait une émission Vivante Église sur ce film documentaire, beaucoup moins de d'autres. Hélas, probablement l'intention de Frédéric Bedos c'était de mieux faire connaître ce géant de la charité. On le compare donc à Mère Teresa, à l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, il est peut-être plus discret. Qu'est-ce que vous diriez juste avant qu'on écoute la bande-annonce ? Pour vous, Jean Vanier, ça sonne comme étant équivalent à Sœur Emmanuel ou l'abbé Pierre, Louis-Marie Solaire ?
Oui, effectivement, on peut le mettre dans cette catégorie, oui. À la fois dans son parcours, ses propos, la façon dont il a vécu et sa conviction qui emporte tout le monde. Quand on est face à cet homme, on ne peut qu'adhérer à ce qu'il dit.
Paul Dima, la même chose, vous pensez que c'est comme ça qu'on le retient, le souvenir qu'on gardera de lui, c'est un des géants de la charité de...
Oui, et aussi par ses réalisations, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des idées en l'air ou des sentiments personnels, mais il y a des centres à travers le monde entier, et ça va survivre à lui-même, comme pour l'abbé Pierre, comme pour Mère Teresa, comme pour... C'est des gens qui ont su incarner leur intuition, la structurer dans une institution qui fait que ça va vivre au-delà d'eux.
Alors donc, Jean Vanier, qui est le fondateur donc de l'Arche, ce sont des communautés de vie avec des personnes handicapées. On en parlera après, on va juste écouter un extrait de la bande-annonce.
Jean Vanier nous a fait découvrir que les handicapés, non seulement ils reçoivent, mais ils donnent.
They can teach us a little bit about freedom. Freedom to be myself.
L'arche est le lieu de la transformation pour que les gens découvrent qui ils sont.
Jean, je t'aime.
Voilà un extrait donc de la bande-annonce. Alors de ce film, donc qui n'en est pas un, qui est un film documentaire qui retrace, on va dire, la vie et le fond de la pensée de cet homme qui est au soir de sa vie, hein, on peut dire ça comme ça, même s'il a encore toute sa tête. Je vous lirai juste une ou deux critiques glanées à droite, à gauche. Télérama, Frédéric Bedoski filme des héros humbles, on en parlera après avec son projet Imagine, réalise une série d'entretiens avec Jean Vanier, de Calcutta à Bethléem, des séquences fortes qui portent le message œcuménique d'un homme d'exception. Le journal La Croix, un documentaire consacré à Jean Vanier, le fondateur des communautés de l'Arche. Sa réalisation parfois maladroite n'atténue pas la puissance de son propos. Mais alors le journal du dimanche, esthétiquement laid. Ce documentaire retrace son parcours et ses actions. L'admiration fut-elle légitime, finit même par agacer. Louis-Marie Solaire. Alors, on va peut-être pas forcément commenter la beauté ou pas de ce documentaire. Peut-être essayer de commencer par introduire l'histoire.
Le parcours de Frédéric Bedos est intéressant et ce qui l'a amené à créer ce projet Imagine et donc à filmer Jean Vanier, c'est que au départ, elle était quand même présentatrice de télé, de radio. Elle était assez en vue puisqu'on a pu la voir à la télé, notamment sur différentes chaînes, mais on se souvient d'elle présentant le Soir 3 sur France 3 ou encore les Victoires de la Musique, cérémonie assez longue donc que les spectateurs connaissent, et puis qui a décidé d'abandonner ce métier, les strass et les paillettes, en particulier
pour, on connaît ça, n'est-ce pas, Louis-Marie?
Ben oui, en particulier pour les Victoires de la Musique, et qui a créé donc cette ONG, Projet Imagine, qui met en lumière, vous l'avez dit, qui cherche à montrer ce que sont ces gens humbles qui œuvrent.
Les vrais héros.
Voilà, c'est, à son sens, ce sont les vrais héros. Alors, elle a été puisée ça dans ce qu'elle est, parce qu'elle a commencé sa vie, c'était assez difficile, puisqu'elle a écrit un livre où elle raconte son parcours, et en particulier son enfance. Ça s'appelle « La petite fille à la balançoire », aux éditions Les Arènes. Je crois que ça a été réédité chez J'ai lu. Et c'est en fait une gamine d'origine haïtienne qui a été adoptée par un couple de petits commerçants de Croix, Marie-Thérèse et Michel, qui avaient eux-mêmes déjà adopté 4 enfants de toutes les couleurs, dont 2 lourdement handicapés. Et donc, à partir de cette enfance...
Elle avait des parents qui étaient des héros, c'est un peu le sens de son livre.
Un peu ça, voilà, exactement. Et ce qui l'a amené à faire ce parcours, parce qu'elle a fait du journalisme, parce qu'elle a un physique avantageux qui lui permet de passer à la télévision, c'est ce qui l'a amené à faire ses présentations, et qui a décidé maintenant de se mettre de l'autre côté, de mettre en avant des gens qui ont des parcours hors du commun.
Alors ça, c'est l'intention et la présentation de Frédéric Bedos. Si on devait présenter un peu plus le film, ça commence par une séquence presque face caméra, même si Jean Vanier ne regarde pas la caméra, qui est vraiment magnifique, où voilà, Jean Vanier donne le cœur de son message. Il parle de ce sacrement de la tendresse. Et puis après, donc, on raconte l'histoire de cet homme. Peut-être qu'on peut en dire deux mots. Hein, fils de gouverneur général du Canada, qui rentre dans l'armée anglaise au début de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il est tout jeune adolescent. Son père lui fait une confiance inestimable, qui le conduira, dit-il, toute sa vie. C'est un homme qui, après, prend du recul, qui, je crois, décroche un doctorat en philosophie. Et en 1964, à la faveur de rencontres qu'il dit providentielles, il s'installe avec 2 hommes porteurs d'un handicap mental, et l'aventure de l'Arche est lancée. Sur l'histoire, qu'est-ce que vous rajouteriez, Paul Dima? Difficile de raconter l'histoire, hein, de ce film documentaire.
Oui, il faut écouter Jean Vanier parler de... Et voir ce documentaire qui a une qualité que je trouve très intéressante, c'est la simplicité, j'allais dire presque entre guillemets la pauvreté de la mise en scène, rejoint bien quelque chose de l'expérience de Jean Vanier et du rapport qu'il veut créer entre personnes dites normales et personnes avec un handicap. Et la morale de Jean Vanier ou du film, c'est de dire, c'est eux qui nous instruisent. Donc, on est vraiment en face à face et avec Jean Vanier et avec des personnes porteuses d'un handicap. Ils ne parlent jamais de personnes handicapées. Comme on dit, les aveugles, eh ben, ils ne sont pas d'abord aveugles, c'est des personnes. Et il dit, les personnes handicapées, c'est les personnes porteuses de handicap qui ont une richesse extraordinaire et une beauté extraordinaire qu'on ne sait pas voir.
Alors avant qu'on écoute un deuxième extrait, Louis-Marie, mon petit doigt m'a dit que dans votre vie en dehors de la radio, vous connaissiez un petit peu le monde du handicap. Oui. Qu'est-ce que vous avez compris du cœur du message de ce film ?
C'est-à-dire qu'il faut... Il faut, comme l'a souligné Paul Dima, et dans les propos de Jean Vanier, il faut considérer ces personnes comme des personnes, et pas comme des handicapés, et s'adresser à eux comme on peut s'adresser à n'importe qui d'autre. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas vivre, comme nous. En fait, c'est ce qui l'a amené à créer, à acheter cette maison. Jean Vanier, là, il est parti avec ses deux hommes. C'est vrai qu'on parlait, Paul Dima en préambule parlait de cette aventure extraordinaire. L'Arche est présente dans plus de 40 pays, mais au départ, c'était une maison, deux personnes porteurs de handicap et lui. Il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité.
C'était à Trolley-Broye, ouais. Dans le Val d'Oise.
Il a réussi. Alors, ce qui est pas mal dans le film, c'est quelques plans de coupe, alors qu'ils... On pourra discuter de la forme et de la façon dont ils sont amenés, mais des plans de coupe où on voit face caméra des personnes handicapées. Et là, c'est assez touchant et c'est un beau contrepoint à ce que dit Jean Vanier.
Alors, on va écouter justement un extrait de ce film documentaire où Jean Vanier parle du sacrement de la tendresse et donc ça explicite le titre de ce film documentaire.
L'accompagnement, être proche. On ne peut pas changer la souffrance des gens. Mais on peut être proche d'eux. Qu'est-ce qui se passe avec... Vous entrez dans un endroit à l'Arche et vous allez avoir 10 personnes qui vont venir vous embrasser et vont vous dire « je t'aime ». Et les personnes assistantes qui viennent ici, d'une société pourrie par le besoin du succès et de « achievement ». Et voilà que ces gens découvrent quand les cercles, je t'aime comme tu es. Tu n'as pas besoin d'être un succès. C'est tout simple. Et la simplicité, une sorte de vérité, une tendresse, la découverte que le cœur de l'Arche, c'est la tendresse. Personne ne sait ce que c'est la tendresse. J'ose parler même du sacrement de la tendresse.
Voilà, donc ça c'est le passage qui explicite le titre du film. Alors je vais vous dire moi ce que j'en ai compris de ce sacrement de la tendresse et puis peut-être du cœur de ce qui est vécu à l'Arche, parce que non seulement il y a de reconnaître ces personnes comme des personnes à part entière, mais ce qu'on entend derrière le message de Jean Vanier, c'est que contrairement au regard que la société peut porter sur ces personnes, en fait elles sont porteurs d'un trésor, c'est que ce sont des personnes en fait qui assument leur faiblesse, qui assument en fait qu'elles ont besoin des autres. Et là, du coup, la lumière rentre et elles deviennent plus humaines quelque part que nous. Et c'est en ça qu'elles sont presque indispensables, en fait, à la société dans laquelle on vit, dans n'importe quelle société. Parce qu'en assumant leur fragilité, elles permettent à chacun d'être pleinement lui-même. Est-ce que, Paul, ça vous semble être un bon résumé ?
Oui, et les personnes qui viennent pour rencontrer ou pour assister ou pour être avec ces personnes porteuses de handicap disent... Ils m'ont révélé à moi-même quelque chose que je ne savais pas et que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que nous sommes tous vulnérables. Eux, ça se voit, nous, on le cache. Mais justement, le rapport avec eux nous amène à nous libérer de cette obligation du paraître, d'être le meilleur, d'être un winner, un gagneur, un gagnant. Et ils nous disent, mais t'as pas besoin de ça pour vivre. Voilà, il y a une simplicité à retrouver. Et Jean Vanier dit, ces personnes-là nous sauvent de notre insuffisance.
On va écouter un deuxième extrait. Cette fois, c'est d'une femme qui travaille à l'Arche. J'ai souvenir qu'elle est psychologue, si je ne me trompe pas. Et elle dit aussi une des réalités importantes de la communauté de l'Arche.
Ce sont des personnes qui, toute leur vie, vont devoir vivre et obéir aux décisions que d'autres ont prises pour eux. C'est vraiment la volonté profonde de l'Arche, que ça, en tout cas ici, ça ne soit plus. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour que ce soit la personne qui devienne vraiment actrice de sa vie. Quand les jeunes assistants arrivent en début d'année, c'est des choses qu'on retravaille. Attention, toi tu peux croire que c'est bien pour elle, mais il faut vérifier avec la personne si elle est bien d'accord que ce qu'on va lui proposer, c'est bien pour elle. En fait, à l'Arche, on a vraiment une qualité de prise en charge, une qualité de soins, une qualité d'attention aux personnes accueillies. Je pense que c'est le fait de vivre avec. Le fait que les assistants soient autant impliqués, soient là dans le quotidien, vivent avec. Ce n'est pas des équipes qui tournent, l'équipe du matin, l'équipe du soir, celle de la nuit. De partager un quotidien qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on est tous ensemble, on avance tous avec le même objectif, c'est œuvrer pour le bien-être des personnes qui sont accueillies ici à l'Arche.
Voilà, pour finir, à moins que ça vous inspire un commentaire, l'un ou l'autre ? Non. Pour finir, ce qu'on pourrait dire, peut-être pour faire écho à ce que je disais en introduction, non pas pour diminuer tous les scandales qui ont éclaboussé l'Église ces derniers temps, mais c'est vrai que si des personnes comme ça étaient mieux connues, comme l'ont été Sœur Emmanuelle ou l'Abbé Pierre, là on touche du doigt ce qui fait le cœur de l'Évangile, non, Paul Dima, le sacrement de la tendresse.
Tout à fait. Reconnaître que l'autre peut être une source de croissance pour moi et l'accompagner sans décider à sa place, là c'est vraiment quelque chose de très proche de l'Évangile. Que veux-tu que je fasse pour toi, mais avec toi aussi, et c'est pas à ta place.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver avant cette pause pour ceux qui nous quitteraient. Deux séances, donc le mardi 16 à 20h30, ça sera Louis-Marie Soler, et le jeudi 18 prochain à 14h30 avec Paul Dima. Deux projections donc du Sacrement de la Tendresse, film de Frédéric Bedos. Et à noter donc que le mardi 16 à 20h30, Louis-Marie Soler sera accompagné d'Éric Pilet, qui est le directeur de l'Arche en Pays Toulousain, donc la communauté de l'Arche pour la Toulouse agglomération.
Présence. Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau donc nos deux messieurs cinéma, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest, Louis-Marie Seller, producteur de l'émission de cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, et tous deux donc animateurs de ce ciné-parole, donc cinéma en lien avec le cinéma, l'ABC. On en reparlera à la fin de cette émission. Alors deuxième film, c'est donc Gandhi, de Richard Attenborough. Louis-Marie Soler, vous pouvez nous dire un mot de la musique qu'on vient d'écouter?
Oui, effectivement, c'était pas la musique qui illustrait le film concernant Jean Vanier, mais qui illustre bien le film de Richard Attenborough. Et elle a été écrite par un des maîtres de la sitar indienne, Ravi Shankar, que tout le monde connaît. C'est une star planétaire qui a inspiré beaucoup de musiciens. Et donc, il était un peu logique qu'Attenborough fasse appel à lui pour composer la musique de ce film.
Alors ce film, il est difficile de résumer son propos. C'est un film donc, qui dure 3 heures, qui retrace la vie, ou peut-être pas toute la vie, mais en tout cas la vie publique de Gandhi, autrement appelé donc père, Babou donc, dans ce film, ou Mahatma, donc, qui veut dire grande âme. Gandhi qui est donc aujourd'hui donc, le père de la nation en Inde. Difficile hein, de résumer ce film. Disons qu'on voit le parcours de cet homme qui au départ est un avocat, qui reste un avocat, hein, mais avocat donc qui a fait ses études de droit en Grande-Bretagne, qu'on découvre au début du film en fait en Afrique du Sud où il mène ses premières luttes pour les droits des communautés indiennes qui sont dans ce pays-là. Et puis après, il arrive en Inde et là, c'est toute l'épopée de la non-violence qui est déroulée dans ce film. Alors, film à grands moyens, je ne sais pas comment on appelle ça. Parce que,
c'est ce qu'on appelle un film à grand spectacle dont les États-Unis et Hollywood étaient coutumiers du fait. On avait déjà vu beaucoup de films comme ça, quelques péplums bien sûr. Un des spécialistes de ce cinéma-là était David Lean, Le pont de la rivière Kwai. C'est lui. Richard Attenborough fait partie de la tradition de ces réalisateurs de films. Mais Richard Attenborough, on le connaît comme réalisateur, mais on le connaît aussi comme acteur. On connaît son visage parce qu'il est apparu dans quelques films qui ont eu un grand succès populaire, La Grande Évasion notamment, où il est le personnage central et qui mène la fronde, si on peut dire ça comme ça, dans le camp de prisonniers. C'est lui qui met en place cette fameuse Grande Évasion. On le voit aussi dans Jurassic Park de Steven Spielberg, c'est lui qui crée le fameux parc de dinosaures. Donc il a été à la fois acteur, il a été à la fois réalisateur, et il aime bien, je parlais de ses films à grand spectacle, avec une figure qu'on met en avant, là c'est Gandhi, il avait mis en scène aussi Steve Biko, le leader d'Afrique du Sud, noir d'Afrique du Sud, qui a eu, j'allais dire qu'il y a eu moins de chance que Nelson Mandela. Mandela n'a pas eu beaucoup de chance, mais il n'est pas mort dans les geôles sud-africaines alors que Steve Biko a été assassiné. Et ce film s'appelle Cry Freedom. Il aime ses personnages, ses figures. Il a fait un biopic sur Chaplin aussi. Voilà, il a été un peu dans tous les genres et il aime ses personnages qui marquent l'histoire, bien sûr, pour Gandhi. Ou marque l'histoire du cinéma pour Chaplin.
Alors comment était pris le film à sa sortie, Louis-Marie? J'ai cru comprendre que ça avait été globalement salué, même si on disait que...
C'était un peu confus.
C'était soit un peu confus, soit un peu trop laudateur à l'égard de Gandhi, c'est
oui,
ça?
Oui, c'était pas très précis au niveau des dates, mais il emportait le morceau dans la mise en scène et dans ses moments épiques. Il faut dire qu'il est aussi remarquablement servi par Ben Kingsley, qui probablement a eu le rôle de sa vie dans ce film. On l'a revu après, Ben Kingsley, il n'était pas en fin de carrière, hein, il continue à tourner. Mais là, il faut dire qu'il est un Gandhi assez extraordinaire. Le film a été couronné par 8 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur, dont celui du meilleur acteur.
Pour introduire l'histoire, qu'est-ce que vous rajouteriez, Paul Dima, avant qu'on écoute un premier extrait qui est un moment où il s'adresse, je crois, à des membres du parti du Congrès pour expliciter sa pensée sur la non-violence?
De fait, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les critiques qui ont été adressées, c'est qu'il y a des fois des aspects un petit peu simplificateurs, c'est-à-dire que ce héros charismatique emporte tout sur son passage et on lui voit peu de failles. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'affronte pas à des choses extrêmement difficiles, mais il gagne toujours. Mais en même temps, c'est la grandeur de ces films, c'est que ça fait vibrer quelque chose, c'est-à-dire qu'on est emporté par le charisme de ces personnes, le charisme du récit lui-même, et qui n'est pas mensonger quelque part. C'est-à-dire que ça le met en valeur, mais on joue le jeu, enfin, on se laisse aussi emporter. Ça, c'est intéressant.
Alors, si on doit resituer donc un tout petit peu plus l'histoire, je disais que au début du film, donc on le voit en Afrique du Sud, où il organise la lutte donc pour les droits civiques de la communauté indienne. C'est comme ça qu'il se fait connaître. Après, il arrive en Inde et là, il est en habit traditionnel indien, c'est ça, hein ?
Comme on conserve l'image de Gandhi. Quoi.
Voilà, donc comme on conserve l'image. Donc, en tout cas, c'est
ce qui était un peu révolutionnaire à ce moment-là.
Voilà, oui. Il est accueilli, donc, on va dire, comme un héros, presque un héros national, mais en tout cas comme une figure. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'on voit que dès le début, en fait, il y a un projet politique autour de sa figure. Et on lui donne les moyens d'agir, ce qui n'enlève rien, évidemment, à la force de sa résistance. Alors, au cœur de sa résistance, c'est la désobéissance civile. Et donc, accompagné de la non-violence, on va écouter un extrait. Cet extrait, c'est donc, il s'adresse à des membres du Congrès national indien, si je ne me trompe pas, vient d'être voté donc par l'Empire anglais des lois profondément iniques à l'égard des Indiens. Et voyez son attitude ou ce qu'il préconise.
Tuons deux ou trois fonctionnaires avant que ne soit déshonorée une seule Indienne. Ils y réfléchiront peut-être à deux fois à leur fameux décret.
Pour cette cause, je veux bien faire le don de mon sang.
J'admire un tel courage et j'aurai recours à ce courage parce que, pour cette cause, je suis tout comme vous prêt à mourir. Mais écoutez, mes amis, il n'existe aucune cause au monde pour laquelle je me sente prêt à tuer. Quoi qu'il nous fasse, nous n'attaquerons personne, nous ne tuerons personne, mais nous ne donnerons pas nos empreintes, personne n'acceptera de le faire. Ils nous mettront en prison, ils nous feront payer des amendes, ils saisiront nos biens, mais ceux qui ne réussiront pas à nous prendre par la force, c'est notre dignité.
Tu as déjà été en prison ? On est battu et torturé ! Ce qu'il faut, c'est...
Je vous demande de livrer un combat, de lutter contre leur colère, pas de la provoquer. Nous ne donnerons pas un seul coup, mais nous recevrons les leurs sans un mot. C'est notre souffrance qui leur fera comprendre leur injustice, notre souffrance, la souffrance de tout combat. Nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas. Ils me tortureront, me frapperont. Ils briseront mes membres. Ils me tueront peut-être. Alors, c'est mon cadavre qui leur appartiendra. Et non pas mon obéissance.
Voilà, donc c'est un extrait donc de ce film Gandhi, donc de Richard Attenborough. C'est vrai que c'est un moment important, hein, parce que Gandhi explicite sa pensée. Ce qu'on voit après, c'est, on va dire, il le met en œuvre, hein, il se paye pas de mots. Et puis, ce qui est fantastique aussi, ça c'est probablement, enfin, l'avantage de ces films, c'est qu'on s'en rend vraiment compte, en tout cas davantage, c'est qu'il emmène 350 millions de personnes derrière lui.
Oui, tout à fait. Et là, on voit aussi que la non-violence, c'est pas à l'eau de rose. C'est-à-dire qu'il y a une forme de provocation. C'est une non-violence virile, on pourrait dire. C'est-à-dire que on ne provoque pas la colère, on la subit, mais la subissant, on leur renvoie que eux sont injustes. Et que c'est ce jeu-là qui va faire qu'on ne peut pas perdre. Alors que si on rentre dans le même mécanisme, si à la violence donnée répond une autre violence, eh bien c'est au plus fort de gagner. Tandis que là, il y a un déséquilibre qui se retourne contre celui qui agresse. Et de fait, c'est un choix politique, là, et on le voit tout au long du film, comment petit à petit, eh bien celui qui exerce un pouvoir injuste se retrouve coincé. Si en face, il y a une volonté de non-violence et de non-obéissance.
Voilà, donc désobéissance civile qui finira, ils finiront par obtenir donc l'indépendance. Alors évidemment, en cette veille de Semaine Sainte, comment ne pas penser aussi à une autre figure qui est le Christ, hein, qui lui a pris la violence du monde sur la croix. Mais ce que je trouve intéressant dans la figure de Gandhi, c'est que parfois, chez les chrétiens, comme l'Église légitime en fait l'usage de la violence dans certaines circonstances, on passe un peu vite en fait sur la non-violence du Christ, me semble-t-il, Paul Dimain. Est-ce que c'est pas aussi tout l'intérêt de figures comme Gandhi aussi de venir poser des questions aux chrétiens?
Oui, tout à fait. Oui, le Christ ne répond pas à la violence qui lui est faite dans la scène de flagellation, etc., par la violence, mais sa dignité est sauve. C'est-à-dire qu'on se moque de lui, on dit « Ah, tu fais le roi, salut le roi », on lui fiche des claques, on lui met une couronne d'épines, etc. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement violent, et la mort sur la croix est aussi une autre forme de violence, maximum, puisque c'était réservé seulement aux esclaves. Donc, Dieu dit « Mais celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est là que je me manifeste. Ce n'est pas en répondant à la violence par la violence. »
Louis-Marie Seller, est-ce que vous ajouteriez quelque chose avant qu'on écoute un deuxième passage où Gandhi fait face aux généraux de l'armée anglaise ?
À propos de ce qu'il représente, Gandhi, il faut dire que c'est la première... Gandhi, c'est l'Inde. Et l'Inde, c'est jusqu'à présent, jusqu'à Gandhi... En fait, l'Inde, c'est un puzzle, en fait. C'est un ensemble d'États différents avec autant d'ethnies qu'il y a d'États, mais il y a plusieurs dizaines d'ethnies, il y a plusieurs dizaines de langues.
Avec des hindous et des musulmans aussi à cette époque.
Et lui a représenté ce pays dans sa globalité. C'est-à-dire que tous ces gens-là, toutes ces ethnies, se sont reconnues en lui. C'est assez exceptionnel pour le souligner aussi.
On va écouter un deuxième extrait. C'est un moment donc assez avancé déjà dans le film où Gandhi et Nehru, donc qui sera le premier ministre indien, font face donc au gouverneur, je crois, au vice-roi britannique en Inde, et puis à l'ensemble de ses généraux.
Pardonnez-moi, messieurs, mais vous devez comprendre que Sa Majesté, son gouvernement et son peuple désapprouvent de façon totale à la fois ce massacre et l'idéologie qui l'a permis. Ceci étant, ce que je souhaiterais, c'est arriver à un certain compromis sur la nouvelle législation civile.
Veuillez m'excuser, Excellence, mais selon notre point de vue, il n'est plus question désormais d'aucune législation. Nous estimons qu'il est temps pour vous de reconnaître que vous êtes maître dans la maison d'un autre. Et malgré les meilleures intentions des meilleurs d'entre vous, il est normal que vous soyez obligés de nous humilier pour nous contrôler. Le général Dyer n'est pas autre chose qu'un exemple extrême de ce principe. L'heure est venue pour vous de partir.
Monsieur, malgré le respect que je vous dois, sans l'administration britannique, l'Inde sera tragiquement réduite au chaos.
Monsieur Kinnock, je vous prie de comprendre qu'il n'est pas un peuple sur cette terre qui ne préfère son propre mauvais gouvernement à celui même bon d'une puissance implantée.
Mais, cher monsieur, l'Inde est des Britanniques. Les Anglais ne sont en rien des implantés.
Monsieur Gandhi, même si Sa Majesté pouvait balayer toute autre considération, elle a un devoir envers les millions de sujets musulmans du pays qui sont une minorité qu'elle tient à protéger. Et l'expérience démontre à l'évidence que ses troupes et son administration sont essentielles au maintien de l'ordre et de la paix.
Dans toutes les nations, il y a des minorités sur le plan religieux. À l'instar des autres, la nôtre aura ses problèmes. Mais ce seront enfin les nôtres, pas les vôtres.
Et comment entendez-vous les faire vôtres ? Nous n'allons pas tout bonnement vider les lieux.
Mais si. Vous finirez par vider les lieux. Parce que 100 000 Anglais sont dans l'impossibilité de contrôler 350 millions d'Indiens si ces Indiens refusent de coopérer. Et c'est cela notre objectif. Nous prenons une pacifique, une non-violente non-coopération.
Voilà, ce passage, je ne sais pas s'il est historique, mais on imagine que ça a pu arriver, qui est quand même assez fascinant. On voit là, il faut quand même dire que c'est un certain temps avant que l'indépendance soit accordée, hein, puisque l'indépendance sera accordée qu'après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, en 1947. Et je pense que ce passage est avant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas ce que ça vous inspire comme commentaire. On voit la force, en fait, de la détermination, on pourrait dire, la force de la vérité, puisque c'est un des mantras de Gandhi.
On voit aussi la force de l'analyse politique qui est derrière, en disant l'Empire britannique, pour lui, il est chez lui. Donc il a à gérer l'unité du peuple, etc., la cohabitation des religions et tout. Il dit non, 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 vous n'êtes pas chez vous. Laissez-nous régler nos problèmes, nous. Mais vous n'y arrivez pas. Eh bien, ça sera nos problèmes à nous, mais ce n'est pas les vôtres. Et vous devrez partir.
Exactement le même argument qu'il donne à propos du chaos économique.
Alors on peut dire aussi autre chose à propos de Gandhi qu'on découvre bien, je trouve, dans ce film, parce qu'on voit, je crois que c'est historique, qu'il y a un prêtre qui le suit pendant toute une partie de son aventure, qu'il travaille à l'unité aussi donc, de l'Inde ou de la future Inde, même si ça s'est passé autrement après. En tout cas, c'est musulmans et hindous qui sont mobilisés. Et puis qu'il y avait des choses révolutionnaires chez cet homme. Il prenait la fraternité entre les communautés, il n'y avait plus d'intouchables, il y a une scène comme ça où il demande à sa femme d'aller nettoyer les latrines et sa femme dit c'est un travail d'intouchable, il lui dit dans notre ashram il n'y a pas de ce genre de choses. On a l'impression que c'est une figure religieuse, on va dire au-delà quelque part des clivages religieux, même si lui-même était hindou.
Tout à fait, il avait un grand respect de toutes les religions. Ce qui semble plus évident dans la mentalité d'aujourd'hui, mais qui était complètement inouï à l'époque, enfin en 1946, tout ça parlait de reconnaissance de toutes les religions et de coexistence fraternelle et avec l'espoir de réunifier tout ça. Peu importe qu'on soit hindou, musulman, chrétien, etc., même si après il y a eu d'autres suites puisqu'il y a eu scission. Mais voilà, c'était l'idéal qui l'animait et lui-même était animé par un idéal religieux très, très, très fort, très profond.
Voilà, et on peut imaginer évidemment que c'était autre chose qu'un doux rêveur, vu ce qu'il a réussi à mettre en œuvre. Je propose qu'on finisse cette deuxième partie en écoutant un court extrait. Il s'adresse à une Anglaise dont je ne me souviens plus du nom, qui les rejoint donc dans son ashram, qui les suit toute une partie de sa vie. C'est un moment où il fait un long jeûne, puisqu'on a oublié de le dire, mais son arme aussi, c'était le jeûne et la prière. Et il a cette conversation avec cette dernière.
Je me souviens que tout au long de l'histoire, la voie de la vérité et de l'amour a toujours triomphé. Il y a dans ce monde des tyrans et des assassins, et pendant un temps, ils peuvent nous sembler invincibles. Mais à la fin, ils tombent toujours. Pense à cela. Toujours. Si parfois il t'arrive de douter que la voix de Dieu est celle qui gouverne le monde, pense à cela. Et ensuite, tâche d'agir selon sa voix.
Voilà, une belle manière de conclure. On ne conclut pas cette émission, mais on conclut cette deuxième partie, donc ce film Gandhi, donc de Richard Attenborough. Vraiment un très beau film à voir. Il faut prévoir une longue soirée, mais ça vaut le coup. C'est vraiment une figure profondément inspirante et ça donne envie d'en savoir bien davantage. Pour ceux qui nous quitteraient maintenant, je vous rappelle, deux séances pour Ciné-Parole, mardi 16, jeudi 18. C'était le premier film qu'on a présenté au début de cette émission, Le Sacrement de la Tendresse, film documentaire de Frédéric Bedos pour visionnage et commentaire avec nos deux messieurs cinéma mardi 16 et jeudi 18 au cinéma L'ABC à Toulouse. On fait une deuxième pause et puis on vous retrouve tout de suite après. Louis-Marie, la pause musicale, c'est...
C'est un extrait de la bande originale du film dont nous allons parler, de Krzysztof Kieślowski, Tu ne tueras point, le cinquième volet du Décalogue. Et c'est son compositeur attitré, je me lance, c'est compliqué, c'est du polonais, Zbigniew Préniew.
À vos souhaits. Thank you.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec donc nos deux messieurs cinéma, Paul Dima et Louis-Marie Soler, tous deux entre autres donc co-animateurs de ce ciné-parole, animé donc au cinéma L'ABC, avec cette émission qui est faite en général les jours qui précèdent pour annoncer le film du mois, où vous accompagnez
les spectateurs,
j'allais dire téléspectateurs, pour relecture de ce film. Le chef-d'œuvre spirituel du mois, c'est donc Tu ne tueras point, de Christophe, c'est comme ça qu'on prononce Christophe,
oui.
Christophe Kieslowski. Voilà, film, on va dire, difficile. Louis-Marie Seller, comment vous nous présenteriez l'histoire de ce meurtre? Vous me disiez, c'est un peu comme... c'est presque un roman de Dostoïevski.
Oui, c'est... c'est le quotidien. Vous allez en parler après, situer ce film dans le décalogue de Kieslowski. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le seul lien entre ces différentes histoires, c'est un immeuble où vivent des gens, ils se croisent, et c'est des gens simples.
Alors donc, là, c'est un film qui fait partie donc, d'une série de films.
10.
Voilà, 10. Le décalogue.
Le décalogue.
Donc, qui sont donc les 10 commandements reçus par le peuple juif au désert.
Revus par Christophe Kieslowski. Hein.
C'est l'histoire d'un
chauffeur de taxi. Alors le film commence, c'est un chauffeur de taxi qui lave sa voiture, qui commence par refuser deux clients, puis finalement qui accepte un jeune homme qui n'est pas très affable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui lui demande de l'amener dans un coin isolé au bord du fleuve. Et une fois au bord du fleuve, le jeune homme tue le chauffeur de taxi. Simplement. Pour prendre la voiture, on ne sait pas trop pourquoi au départ. On se demande pourquoi il le tue, puis on va comprendre un peu plus tard que c'est pour la voiture, enfin c'est ce qu'il prétend. Il va être défendu par un jeune avocat, dont c'est la première affaire, parce qu'il vient juste d'être diplômé. Et cet avocat est contre la peine de mort, et Yasek, c'est le nom du jeune homme, va être condamné à mort.
Il faut dire aussi que donc, c'est un film qui a été projeté au Festival de Cannes, ce qui n'était pas spécialement fréquent, puisqu'on était encore à l'époque du mur.
Oui, mais ce qui n'était pas initialement prévu, puisque vous l'avez dit, le décalogue, et c'est une série de films pour la télévision, la télévision polonaise. C'est vrai que le film a été tourné et l'ensemble à la fin des années 80, donc on est juste au moment où de la chute du bloc de l'Est. Ça allait, c'est les prémices. Mais le film, en tant que tel, ce passage-là, Tu ne tueras point, a été revu par Christophe Kieslowski pour en faire un film de cinéma. Donc il est plus long que les autres, puisque pour la télé, c'était
52 minutes.
Là, il arrive à pratiquement une heure et demie. Donc il y a des scènes plus longues. Il développe plus de choses dans le film qu'on a pu voir en salle sous le titre Tu ne tueras point, et qu'on a revu plus tard, mais dans sa forme originelle, celle des 50 minutes, dans le décalogue.
Et donc, il a été prix du jury, c'est ça, du Festival de
Cannes. Il a eu le prix du jury au Festival de Cannes 88, et il a eu le prix FIPRESI. La FIPRESI, c'est le prix de la presse internationale, c'est ça, des critiques internationales.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler l'un ou l'autre un petit peu plus de ce réalisateur, Christophe Kieslowski, donc réalisateur d'Allemagne de l'Est?
Polonais,
excusez-moi. Polonais. J'ai lu, entre autres, cette chose. Ses choix artistiques correspondaient à une volonté, en fait, de dénoncer l'opacité d'un système. Avec cette citation, ce qui m'intéressait en Pologne pendant les années 70, c'était le monde non représenté. Je voulais décrire ce monde. Vous ne savez pas ce que c'est en France de vivre dans un monde sans représentation, a-t-il dit probablement lors d'une interview. Comment vous présenteriez le cinéma de cet homme?
Il est empreint de ce qu'était... Cet homme était profondément humaniste, profondément humain. C'était un grand réalisateur. Et en fait, il met en exergue de son œuvre, et en particulier de ce décalogue, voilà ce qu'il dit. « Vivez avec précaution, regardez autour de vous, prenez garde à ce que vos actions ne causent pas de préjudice aux autres, ne les blessez pas ou ne leur causez pas de douleur. » C'est-à-dire que tout son cinéma... Et basé là-dessus, c'est les rapports humains et les façons de les décrire et les façons de voir comment ça peut s'agencer, comment ça peut s'imbriquer, comment d'un côté à un autre. Finalement, on est presque dans le cas de, vous savez, cette histoire que le battement d'aile du papillon, ici provoque une catastrophe à l'autre bout de la Terre, ben, il est dans les rapports humains comme ça. Ce n'est pas forcément des catastrophes. Là, dans Tueur à Poing, c'en est une terrible. Mais c'est ça. Il aime ausculter les rapports des gens, la société, et ce qu'elle était à l'Est, et avec cet empêchement de la liberté, cet empêchement de penser.
Juste, Paul, j'ai oublié, on va écouter quand même un tout petit extrait de la bande-annonce. Ça dure pas très longtemps, il n'y en a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour ce film, puisqu'il est en polonais et il n'a pas été doublé en français.
Madame Nemokatov.
Voilà, je me disais qu'en tout cas, le rythme est, peut mettre un peu dans l'ambiance. Je réinsiste, Louis-Marie Soler, en préparant l'émission, me disait c'est un peu Crime et Châtiment de Dostoïevski, mais au cinéma. Voilà, on rentre à l'intérieur d'un meurtre. Voilà, on le comprend peut-être de l'intérieur.
Ce qui est intéressant chez Kieslowski, c'est que cette démarche philosophique, humaniste, n'est pas abstraite. C'est-à-dire, il filme avec beaucoup de talent de cinéaste, des images tout à fait remarquables, c'est-à-dire que c'est du grand cinéma, il est reconnu comme tel, c'est-à-dire que sa façon de concevoir ses plans et tout ça invite à regarder, à prendre en compte ce qu'il montre, mais à réaliser que souvent les apparences sont trompeuses. Et que cette réflexion sur comment vivre mieux, comment ne pas nuire à son prochain, c'est dans le quotidien que ça se passe, et dans l'attention qu'on porte à des choses très très concrètes. Ici, bon, y a toutes les plaidoiries, mais il y a aussi l'histoire de ce jeune homme, l'histoire aussi de ce jeune avocat qui est contre la peine de mort, et son premier client, il va être pendu. Donc, c'est derrière la banalité du quotidien, éveiller à quelle humanité se construit là. Et Dieu sait si, à la fin du régime communiste en Pologne aussi, ces questions étaient fondamentales, parce que les apparences étaient très surveillées. Mais qu'est-ce que devient l'humain là-dedans? Qu'est-ce que devient l'humain?
On peut peut-être aussi, est-ce qu'on peut parler de la fin, en tout cas du ressort de ce film? Le but de ce film n'est pas forcément de dire la cruauté qu'il y a pour ce jeune homme de tuer, mais aussi, voire surtout, d'être tué.
Oui, et aussi, c'est à la fin...
Puisqu'il est condamné à mort.
Il est condamné à mort, c'est au moment même de l'exécution, quelques temps avant, parce qu'on insiste sur le fait qu'il a toujours le visage fermé, donc il livre peu de choses, en fait, à son avocat. C'est un jeune homme compliqué à défendre, il dit pas grand-chose. C'est difficile de comprendre pourquoi il a tué cet homme. Et à un moment, alors que... Et c'est là où la scène est magnifique, ils sont en présence tous les deux. L'avocat ne dit plus rien, il a renoncé à le faire parler. Et finalement, ce silence va permettre à Jacek de s'exprimer. Et là, on comprend. On comprend la raison de son geste. Il a une motivation qui l'a marqué à jamais, une blessure terrible qui ne peut pas se refermer. Et là, on comprend. Et c'est là que il a une justification, un mobile, dirons-nous. Et qui est, c'est là qu'on comprend qu'en fait, c'est de cette façon, pardon, que Kieslowski argumente et charpente son discours contre la peine de mort. Parce qu'à ce moment-là, on comprend que finalement, même si l'acte qu'il a fait est atroce, il ne mérite pas de mourir.
Paul Dima, un dernier commentaire avant qu'on conclue le film. Est-ce une manière aussi d'inviter? Vous disiez que ce cinéaste donc, avait peut-être l'art et la manière de montrer ce qui se joue en fait derrière la banalité de l'existence. Je crois qu'il y a une scène aussi dans ce film où il se croise inopinément dans un café, et puis après on voit ses vies en fait qui derrière basculent. L'autre enseignement à tirer à partir de la remarque de Louis-Marie Soler, c'est aussi que on ne sait jamais vraiment en fait ce qui se trame derrière une vie, derrière un cœur, derrière une histoire et derrière des actes dont on peut être témoin.
C'est ça, et c'est ce qu'a relevé tout à l'heure très justement Louis-Marie, c'est que les apparences peuvent être trompeuses. Et ce qui est très, très fort dans son cinéma, c'est un cinéma très concret, avec des gestes précis et un montage très précis aussi, on s'aperçoit tout d'un coup que Ben, les choses ne sont pas forcément ce qu'on croit au premier regard. Parce que, d'après le scénario, ce jeune, il mérite d'être châtié. Et puis, après, on comprend que c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça.
Et ben voilà, en cette veille de Semaine Sainte, aller au-delà des apparences, peut-être tâcher de ne pas juger et essayer de se mettre dans les pas des géants que sont les hommes de notre temps ou du passé. Voilà, on va dire une bonne posologie en cette veille de Semaine Sainte. Merci beaucoup à nos deux invités. Je rappelle donc une dernière fois, mardi 16 avril et jeudi 18 avril prochain. La première le 16 à 20h30 et le jeudi 18 à 14h30. Deux séances de ciné-parole au cinéma L'ABC à Toulouse, où vous retrouverez nos deux messieurs cinéma pour le sacrement de la tendresse de Frédéric Bedos. Un grand merci à vous d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Jean-Louis Arsac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.